إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، ما زلنا مع قراءة رسالة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألا وهي أصول في التفسير. أصول في التفسير. وبحمد الله عز وجل ما زلنا في باب نزول القرآن، ابتدائي والسببي. طيب، نعم. دونك بورسويف باذن الله عز وجل notre étude de l'épître du noble شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، les fondements du tafsir. Et nous étions arrivés la fois dernière, donc on avait commencé à étudier le troisième chapitre intitulé « La descente du Coran, du Coran al-Karim hein? ». Une descente qui peut être de première instance « ibtida'i » ou « sababi », c'est-à-dire succédant à une cause. Donc, la descente du Coran peut être soit « ibtida'i » de première instance, soit sababi, succédant à une cause. Naam. Et on avait vu que parmi les fawa'id, parmi les bénéfices du fait de connaître justement les causes ou les différentes causes de la descente des paroles d'Allah Jalla wa Ala, on a dit premièrement, قال الشيخ بيان أن القرآن نزل من الله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. On a vu que parmi les bénéfices de connaître les causes de la descente des versets d'Allah Jalla wa Ala, parmi elles la démonstration et l'exposé que le Coran il descend de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était interrogé sur certaines choses, il s'abstenait de répondre, hein, il s'abstenait parfois de répondre, jusqu'à ce que la révélation lui soit descendue de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est une preuve donc que le Coran est la parole d'Allah, et la parole du Seigneur de l'univers, azza wa jal. Ou alors des fois, il se peut que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ignorait donc certaines choses et que Allah subhanahu wa ta'ala descende un verset justement pour enseigner et pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il ignore. Naam. Wa idhan nuwasil bi'aunillahi azza wa jalla wa qala al-shaykh rahimahullah min fawa'idi معرفة أسباب النزول بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. نعم. Donc parmi également les profits et les bénéfices du fait de connaître justement la cause ou les causes des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la descente des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi elles, on a à l'exposé de l'attention d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de son messager sallallahu alayhi wa sallam et dans le fait de défendre son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exemple de ce genre de verset, il dit Allah jalla wa ala dans le sens rapproché dans la sourate Furqan, Al-Furqan, verset 32. Et ceux qui ont mécru ont dit, si, ou plutôt pourquoi, ou si seulement le Coran lui avait été descendu en une seule fois. Jumlatan wahida. طيب فاختلف يعني في قائل ذلك على قولين أحدهما أنهم كفار قريش وقاله ابن عباس والثاني أنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقا قالوا هل أنزل عليه جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود كما ورد ذلك في تفسير القرطبي. Donc, ceux qui ont mécru ont dit pourquoi ou si seulement ce Coran avait été descendu en une seule fois yani sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les gens de science, ils ont divergé sur justement quelle personne a prononcé ce genre de propos. Taïb. Donc, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit, ce sont les mécréants de Quraysh, de la tribu de Quraysh, ils ont dit, donc, pourquoi ce Coran n'a pas été descendu sur lui en une seule fois. D'autres ont dit, c'est El-Yahoud. El-Yahoud, ou les Juifs, lorsqu'ils ont vu que le Coran a été révélé, donc, en plusieurs fois, à plusieurs moments, taïb, durant, donc, des années et des années, alhamdulillah, ils ont dit, pourquoi n'a pas-t-il été descendu, yani le Coran, comme en une seule fois, comme la Torah a été descendue en une seule fois sur Moussa, ou comme l'Injil qui a été descendu en une seule fois sur Isa, alayhi salam, ou Al-Zabur qui a été révélé en une seule fois sur Daoud, alayhi salam. Donc cela, on le retrouve dans le tafsir de l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. Thumma yaqul jalla wa ala, كذلك أي كذلك فعلنا. Donc il dit c'est ainsi que nous l'avons fait, c'est-à-dire c'est ainsi que nous avons descendu ce Coran en plusieurs fois et pas en une seule fois. لماذا لنثبت به فؤادك أي نقوي به قلبك فتعيه وتحمله لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون والقرآن أنزل على نبي أمي ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور ففرقناه ليكون أوعى للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب. Donc il dit Allah dans le sens rapproché, c'est ainsi que nous avons fait cela afin que nous le dans le sens rapproché pour raffermir ton cœur ou pour que l'on raffermisse ton cœur. Na'am, c'est-à-dire afin que ton cœur ait la capacité et la force de pouvoir le comprendre, le mémoriser et le retenir. Car il faut savoir que les livres précédents ont été descendus sur des prophètes qui savaient lire et écrire. Alors que le Coran, lui, a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc vous savez que il fait partie des prophètes qui ne maîtrisent pas la lecture. Taïb. Et également dans le Coran, il y a des versets qui sont des versets qu'on appelle yani nasir et des versets qui sont mansour, des versets qui abrogent d'autres versets au niveau du jugement. Voyez? Et des versets donc qui sont également abrogés par d'autres versets. Voyez? Dans le Coran, il y a également des versets qui ont été descendus à certains moments pour répondre à des questions qui ont été posées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu, voyez, le Coran en plusieurs fois, et ceci yani, sur plusieurs années, afin que cela soit plus facile et plus propice au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la compréhension, à la mémorisation, wa aysaru ala al-amili bihi, également à la mise en pratique. Car s'il avait descendu le Coran en une seule fois, yani cela serait beaucoup plus difficile à appliquer d'un trait ou directement. فَكَانَ كُلَّمَا نَزَلَ وَحْيٌ جَدِيدٌ زَادَهُ مَاذَا قُوَّةَ قَلْبٍ تفسير القرطبي. Hein, comme dit l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, à chaque fois donc qu'une nouvelle révélation était descendue, était révélée, eh bien cela rajoutait au cœur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et au cœur des croyants de la force et de la foi. Na'am. Et également les versets concernant le mensonge à l'encontre de l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiyallahu anha, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Aïcha à travers la révélation, et afin de laver l'honneur, yani, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de son épouse qui avait été souillée par al-affakoun, les menteurs. Naam. Wa min fawaid ma'rifati asbab an-nuzul bayan 'inayati Allah ta'ala bi'ibadihi fi tafrij kurubatihim wa izalati ghumumihim. Mithal dhalik آية التيمم. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد ابن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولا. Troisième profit ou troisième bénéfice de la connaissance de la cause du verset, eh bien le fait que Allah Jalla wa Ala se soucie ou se soucie de ses serviteurs dans la délivrance de leur détresse et de leur désarroi, et le fait de faire disparaître leurs angoisses. Taïeb. Donc le fait de connaître la cause des versets, cela t'amène à avoir cela et à prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu certains versets pour délivrer les musulmans de leurs angoisses, pour faire disparaître leur désarroi et leur détresse. Exemple de ces versets-là, le verset sur At-Tayammum. Dans le Sahih al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, on apprend que lors d'un des voyages de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il était accompagné de Aïcha, son épouse, elle avait égaré son collier. Taïeb. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a arrêté donc la marche pendant ce voyage-là. Il a arrêté les musulmans, hein, afin de partir à la recherche de ce collier. Et ils se sont arrêtés à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Donc, pas d'eau. yani qu'il pouvait boire ou pour faire les ablutions. Tayyib. Et donc ils ont commencé à se plaindre auprès de Abi Bakr radiyallahu anhu. Et donc dans ce hadith, on apprend que par cette cause, yani de la perte de ce collier, le fait qu'il soit arrêté à un endroit où il n'y avait pas d'eau, Allah Jalla wa Ala, il a descendu le verset de At-Tayammum. Pour dire aux gens qu'ils pouvaient faire At-Tayammum. C'est ainsi que un des Sahaba, radiallahu anhu, Usayd ibn Hudayr, il a dit, en s'adressant à Abu Bakr, il a dit, ceci n'est pas la première baraka. Ceci n'est pas la première yani, bénédiction de votre famille. Ya Abu Bakr. Ya Ala Abi Bakr. Ô la famille d'Abu Bakr, ceci n'est pas votre première bénédiction. Vous voyez, c'est-à-dire que par la cause d'Aïcha, donc qui est la fille d'Abu Bakr, par la cause d'Aïcha, alhamdoulilah, Allah Jalla wa Ala, il a révélé le verset de Tayammum qui facilite donc yani, les musulmans au niveau des ablutions et de la purification. Na'am. Donc le hadith, on le retrouve dans Sahih al-Bukhari, dans une version yani, longue. Na'am. Wa rabi'an. فهم الآية على الوجه الصحيح مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي أن يسعى بينهما فإن ظاهر قوله جل وعلا فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح وفي صحيح البخاري عن عاصم ابن سليمان رحمه الله قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله عز وجل من شعائر الله. Quatrième bénéfice de connaître les causes des versets, eh bien, dans le but d'avoir une compréhension correcte du verset, d'avoir une bonne compréhension de la parole d'Allah subhanahu ta'ala. Tayyib. Exemple. La parole d'Allah jalla wa ala de la sourate al-Baqara, verset 158. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, As-Safa et Al-Marwa font partie, yani, des sha'a'irillah, des rites visibles, des signes visibles d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui fait le pèlerinage à la maison, yani, la maison sacrée, ou qui fait la umrah, pas de péché sur lui, si il fait le yani un yatawafa bihima, c'est-à-dire qu'il fait le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa. Donc, quand on lit fala junaha alayhi, pas de péché sur lui, ce qui est apparent ici de la parole d'Allah Jalla wa Ala, c'est que on pourrait comprendre que le jugement du fait de faire le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa est quelque chose qui est permis, qui est autorisé, mais pas obligatoire pour le pèlerin ou pour celui qui fait la Umrah. C'est ce que l'on comprend de ce verset-là. Seulement, lorsque on se penche sur la cause de la descente de ce verset-là, comme cela a été rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, selon Asim ibn Sulayman, qui a dit j'ai demandé à Anas ibn Malik, radiallahu anhu, au sujet de As-Safa et Al-Marwa. Et qu'est-ce qu'il a répondu Anas? Il a dit, nous pensions que le fait de faire le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa faisait partie des choses de l'époque pré-islamique. D'ailleurs, parce que à l'époque pré-islamique, les gens faisaient déjà le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa. Bien sûr, en mélangeant beaucoup de choses, hein, faisant partie du shirk et du polythéisme. Et d'autres choses interdites encore. D'ailleurs, donc il dit, Anas, nous pensions que c'était une chose spécifique à l'époque pré-islamique, na'am, et que, du coup, lorsque l'islam est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nous sommes abstenus de le faire. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, donc, certes, As-Safa et Al-Marwa font partie des rites visibles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il ait dit, en yatawwafa bihima, et pas de péché sur lui, si il fait le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa. Naam. Et c'est ainsi qu'on comprend, donc, par rapport à la connaissance de la cause de la descente de ce verset-là, que ici, le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani, nie et annule, ce n'est pas le fait de faire le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa, mais c'est au contraire le fait que ils n'ont pas besoin, les musulmans n'ont pas à s'abstenir de le faire, n'ont pas à s'abstenir de le faire, et qu'il n'y a aucune gêne, aucun obstacle, aucun empêchement à ce que les musulmans fassent le va-et-vient pendant leur pèlerinage ou pendant leur umrah entre As-Safa et Al-Marwa. Au contraire, ceci fait partie des piliers du pèlerinage. Ceci fait partie des piliers du pèlerinage. Et bien sûr de la umrah. Na'am. Donc, le verset a été descendu par rapport à une mauvaise compréhension. Par rapport à une mauvaise compréhension de la part, ici, de certains parmi les Sahaba, qui pensaient que, donc, le va-et-vient entre Safa et Marwa faisait partie exclusivement des adorations ou des rites anti-islamiques. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a exposé, donc, le jugement véritable de cela, et il a dit, « Min sha'airillah » fait partie des rites visibles yani, de l'islam, de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Idan, min fawa'id dhalika, comme a dit Sheikh Al-Shathri, hafidha Allah ta'ala, anna al-mar'a ya'rifu ma'ani al-aya al-Qur'aniyya. التي نزلت بسبب هذه الحادثة التي وقعت في عهد النبوة فإن الإنسان إذا أطلع على الآية ولم يعرف سببها فقد ينزلها على غير المراد بها كما ذكر المؤلف رحمه الله في آية البقرة فيما يتعلق بالصفا والمروة ومثله كذلك قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فهنا قد يقول قائل هذه الآية فيما يرتبن فيه أما إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك فلا يدخل فيها فيقال إن قوله إن ارتبتم المراد بها يفسره سبب نزوله أو نزول هذه الآية وهو أنهم شك يعني شكوا في شأن المرأة التي تكون كبيرة ولا تحيض فنزلت الآية في بيان أن من كان كذلك فعدتها ثلاثة أشهر Donc on comprend par là que parmi les enseignements de connaître la descente, la cause de la descente des versets, que l'individu comprenne correctement le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été descendue après un certain événement qui s'est déroulé, bien sûr, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque la personne se penche sur un verset, mais il ne connaît pas la cause de la descente de ce verset, il se peut qu'il l'interprète faussement et qu'il lui donne un sens erroné qui n'est pas celui voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu l'exemple avec le verset de la sourate Al-Baqarah, donc concernant As-Safa ou Al-Marwa. Un autre exemple également, le verset où Allah Jalla wa Ala, il parle des femmes qui n'espèrent plus avoir leur menstrue. D'ailleurs, dans le sens rapproché, il dit « Et celles parmi vos femmes qui n'espèrent plus, « Ya'isna min al-mahid, wallahi ya'isna min al-mahidi min nisa'ikum » qui n'espèrent plus avoir leur menstrue parmi vos femmes, si vous doutez, il dit « Inirtabatum » فَعِدَّتُهُنَّ, eh bien leur délai de viduité est de 3 mois. Est de 3 mois. Vu qu'elles n'ont pas leur menstrue, leur délai de viduité à elles est de 3 mois. Donc ici, il se peut que une personne dise ce verset-là concerne seulement celles qui ont un doute. Donc celles qui n'ont pas de doute ou d'hésitation, elles ne sont pas concernées par ce verset. Ils ne sont pas concernés par ce verset. Donc celui qui dit ça, c'est qu'il ne connaît pas la cause justement de ce verset. La cause de la descente de ce verset-là. Donc en vérité, lorsque on revient à la cause de ce verset-là, on va comprendre pourquoi Allah dit « Inirtabatum » si vous avez des doutes. Des doutes sur quoi? Est-ce que ça concerne les femmes ici? Là. Donc, qu'est-ce qui va expliquer et clarifier cette question-là? Eh bien, c'est le fait que on sait que les musulmans avaient des doutes sur justement le statut de la femme. Le statut de la femme qui était âgée et qui arrivait à un âge où elle n'avait plus ses menstrues. Taillez, donc ils avaient des doutes sur elle et sur son délai de viduité. Sur son délai de viduité. Et donc c'est ainsi que, pour que les gens n'aient pas une mauvaise compréhension de ce verset-là, et de cette chose-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le verset. Ça y est, pour dire que le délai de viduité de ces femmes-là, il est de 3 mois. Il est de 3 mois. Des femmes qui donc n'espèrent plus avoir de menstruation. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عموم اللفظ وخصوص السبب عموم اللفظ وخصوص السبب فإذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. طيب donc là on va passer à un sujet, un point qui est important concernant la généralité des mots ou de la formulation et la spécificité de la cause. Donc il dit le cheikh, lorsque le verset a été descendu pour une cause particulière et spécifique, mais les termes, les mots, les expressions utilisées sont généraux. La cause, elle est spécifique, mais le verset, lui, il est général au niveau des termes, au niveau des mots et des expressions. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jugement, il va concerner, bien sûr, la cause qui a provoqué la descente de ce verset-là, mais le jugement, il va concerner aussi tout ce que les termes et les mots généraux vont toucher et vont inclure. Pourquoi? Parce que le Coran a été descendu pour légiférer de manière globale et de manière générale pour toute la Oumma. Pour toute la Oumma. Et donc, on va prendre en considération la généralité de la formulation ou des expressions et pas la spécificité de la cause. Vous allez comprendre, inchallah, de manière plus claire avec les exemples. مثال ذلك آيات اللعان وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بالشريك ابن السحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فهذه الآيات نزلت بسبب قف هلال ابن أمية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره. طيب. Donc exemple, les versets révélés sur ce qu'on appelle al-li'an. Donc al-li'an, c'est lorsque une personne accuse son épouse, par exemple, de fornication. Vous voyez? Et s'il n'a pas de preuve, eh bien, il doit faire ce qu'on appelle al-li'an pour pas que on applique la sentence du fait d'accuser une musulmane qui n'est pas connue pour la fornication, contraire pour sa chasteté, de fornication. Il devra dans ce cas-là faire ce qu'on appelle al-li'an ou mula'ana. Vous voyez? C'est-à-dire le fait de demander la malédiction sur lui s'il ment, et la femme devra faire de même. Elle demandera que si il dit la vérité, que la colère d'Allah tombe sur elle. Vous voyez? Donc les versets dans la sourate An-Nur, Allah Jalla wa Ala dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. Et ceux qui accusent leurs épouses de fornication. وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَى. Et ils n'ont pas de témoins, si ce n'est eux-mêmes. Jusqu'à la fin, donc, du verset numéro 9. إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ. Ce qui fait partie des vertueux. Donc, encore une fois, l'i'an, ça consistait donc, s'ils n'avaient pas de témoins, à jurer sur Allah. Il est juré sur Allah, donc l'époux qui accuse, il jure sur Allah 4 fois qu'il dit la vérité, que sa femme a bien fait la fornication, et puis la 5e fois, il jure en disant que la malédiction d'Allah sur lui s'y ment. Puis la femme, elle jure aussi 4 fois en disant que son mari il ment et qu'elle, elle n'a pas fait la fornication. Et puis la 5e fois, elle jure et elle demande que Allah Jalla wa'ala ou que la colère d'Allah soit sur elle si il dit la vérité. Ça c'est al-mula'ana. Dans la Sahih de Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, on apprend qu'un certain Hilal ibn Umayya a dit que sa femme, son épouse, a commis la fornication avec un homme, avec Shariq ibn Sahma, un certain Shariq ibn Sahma. Donc, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-bayyina, c'est-à-dire, amène-moi la preuve. Amène-moi la preuve, car sinon, on va devoir appliquer sur toi la sentence de la flagellation, des coups de fouet. C'est-à-dire que celui qui accuse son épouse de fornication sans amener les preuves, eh bien, sa sentence à lui, c'est des coups de fouet. Taïeb, 80 coups de fouet. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Hilal? Il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je suis véridique. Inni la sadiq. Je dis certes la vérité. Puis il dit, qu'Allah fasse descendre, un verset, une révélation, qui va m'innocenter, ou qui va préserver mon dos de la sentence. Donc là, c'est une dua, bien sûr, il a fait. Il a fait une dua. Il a demandé à Allah, Jalla wa'ala, qu'Allah descende un verset, afin qu'il ne se fasse pas châtier, parce qu'il n'avait pas de preuves ou de témoins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jibril, alayhi salam, il a descendu sur le prophète, sallallahu alayhi salam, ces versets-là de la sourate An-Nur, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ. Ceux qui accusent leurs épouses de fornication jusqu'à la fin du verset, in kana min as-sadiqin, c'est fait partie des véridiques. Donc verset 6 à 9, où on apprend donc que si la personne n'a pas de témoin, eh bien pour éviter la sentence, il doit faire ce qu'on appelle al-mula'ana, donc demander la malédiction, jurer sur Allah subhanahu wa ta'ala, yani 5 fois, et la femme doit en faire de même. Si la femme veut échapper à la sentence également de la fornication, elle devra faire la même chose, c'est-à-dire demander sur elle la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala si son mari dit la vérité. Allah musta'an. Donc, ces versets-là ont été descendus, la cause qui a fait que ces versets-là sont révélés, c'est justement le fait que Hilal ibn Umayya avait accusé donc son épouse de fornication. Mais est-ce qu'on va dire que les versets dans lesquels Allah Jalla wa'ala a légiféré al-mula'ana ou al-li'an, ne concerne que Hilal ibn Umayya et son épouse? Non, ça concerne tous les musulmans qui se retrouvaient dans le même cas que eux. Donc la cause, elle est spécifique. La cause, elle est spécifique, elle est particulière, parce que c'est ça qui a provoqué la descente de ce verset-là, certes, mais le jugement, lui, il reste général. Le jugement, se trouvant dans les mots, les versets, les termes de ces versets-là, eh bien, il concerne toute la communauté. Il concerne toute la communauté et pas seulement ces personnes-là ou ces individus-là qui ont provoqué, donc, ou qui ont été la cause de la descente de ces versets. Donc, ذلك, دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. Donc prouve également ce qu'on vient de dire par rapport au verset de Al-Mula'ana, quand on a dit que ce verset-là ne concerne pas seulement Hilal ibn Umayya et son épouse, mais qu'il concerne toute la communauté, notamment le hadith de Sahal ibn Sa'd, radiallahu anhu, qui a dit que Uwaymir al-Ajlani est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, un homme qui trouve son épouse avec un autre homme. Un homme qui trouve en flagrant délit son épouse avec un autre homme. Taïeb, est-ce qu'il tue cet homme-là? Mais s'il le tue et qu'il n'a pas de preuves, est-ce que vous allez le tuer? Taïeb, parce que s'il tue cet homme-là et qu'il ne ramène pas de preuves, et que la femme, elle nie, donc on devra appliquer sur lui la sentence de celui qui a assassiné quelqu'un. Et cette sentence-là, c'est la mort. M. Kayfa Yasna. Ou comment doit-il faire? Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran sur toi et sur ton épouse. C'est-à-dire, il a été descendu, ces versets-là, yani, sur ton cas et le cas de ton épouse. Ça ne veut pas dire que c'est lui la cause de la descente du verset, parce qu'on a vu que la cause était Hilal ibn Umayya, mais que son cas est similaire à celui de Hilal ibn Umayya et son épouse. Et donc, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il leur a ordonné, à tous les deux, de faire Al-Mula'ana. De faire Al-Mula'ana. Vu que tous les deux yani, ont deux versions opposées, eh bien, l'homme fait Al-Mula'ana et la femme fait Al-Mula'ana. Comme on l'a vu dans la sourate An-Nur, le hadith. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, a clairement dit que le jugement de ces versets-là, il est global, il est général. Il inclut, bien sûr, celui qui en a été la cause, qui est Hilal ibn Umayya, mais également, autre que lui, parmi la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لكن ليعلم أن خصوص السبب إذا كان وصفا أو معنى من أجله ورد العام فإنه يختص بهذا المعنى أو الوصف مثال ذلك donc il dit le cheikh العثيمين رحمه الله تعالى il faut savoir une chose malgré ça importante et un point qui est important à soulever qui est que la particularité de la cause, si elle est liée à une situation spécifique ou particulière, ou à une signification spécifique ou particulière, et que des versets ont été descendus, d'une apparence générale au niveau des termes, mais par rapport à une situation particulière ou une description, un descriptif particulier. Eh bien, ce verset-là ne concernera que la situation spécifique en question ou la description ou le cas spécifique. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فلو أخذنا هذا فاللفظ على عمومه لكون الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شق أم لم يشق لكن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورأى رجلا قد ذلل عليه والناس حوله فقال ما هذا قالوا ها قالوا صائم فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله مثل حال هذا الرجل بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر فعليه فإن خصوص السبب إما أن يكون خصوصا عينيا أو خصوصاً وصفياً. Exemple de ce qu'on vient de dire. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith? Il a dit, ne fait pas partie de la bienfaisance ou de l'obéissance que de jeûner en voyage. Donc si toi, tu prends ce hadith dans son sens yani, général, eh bien le fait de jeûner pour un voyageur, est de manière absolue quelque chose qui contredit, qui s'oppose à l'obéissance. Que le jeûne du voyageur soit pénible ou pas, yani quelle que soit la situation et l'état du voyageur. Mais est-ce que cela est la bonne compréhension? Non, c'est pas la bonne compréhension. Parce que lorsqu'on regarde la cause de ce hadith, la cause de cette parole-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on apprend que le prophète, il a dit, par rapport à, lorsque il a vu un attroupement, les sahaba, au-dessus d'un homme, donc, qui était en voyage, et donc les gens lui faisaient de l'ombre, car il était à terre et mal en point. Les gens étaient autour, au-dessus de lui également, et lui faisaient de l'ombre. Le prophète alors de demander, « Ma hada ? Qu'est-ce que c'est ?» Et là, ils ont répondu, « Sa'im. » Il jeûne. Donc il jeûne, et c'est un voyageur. Et c'est pour ça qu'il était très mal en point. Et là, le prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de l'obéissance que de jeûner en voyage. D'ailleurs, mais cette globalité ou cette généralité-là, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut l'appliquer que sur une personne qui se trouve dans le même état que cet homme-là. En voyage, certes, mais aussi pour qui le jeûne était très difficile et pénible. Et on ne peut pas l'appliquer sur un voyageur, par exemple, qui jeûnerait, mais pour qui le jeûne ne représente aucune difficulté et aucune gêne. La preuve, c'est quoi? C'est que le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà jeûné en voyage. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait que le prophète jeûne et le fait qu'il ait dit que le jeûne n'est pas une obéissance pendant un voyage? Là, ça veut dire que lorsque le jeûne est pénible et est très difficile pour le voyageur, na'am, dans ce cas-là, il ne fait pas partie de l'obéissance que de jeûner. D'ailleurs, donc, ainsi, la particularité de la cause, il se peut que ce soit une particularité concernant un individu, comme on a vu pour les versets sur Al-Mula'ana, ou quelque chose qui a été révélé, mais concernant plutôt une situation particulière. ولهذا قال فإن كان عينيا فإنه لا يخصص به العموم قطعا وإن كان وصفيا فإنه يخصص به العموم لأن حقيقة الوصف أنه عام إذا قلنا ليس من البر الصيام من شق عليه الصوم هذا عام أم خاص هذا عام لكنه خاص بحال معينة وهي حال من يشق عليه الصوم. طيب دونك si la cause de la descente d'un verset, ou même de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concerne une personne, un individu particulier, dans ce cas-là, la parole reste dans sa globalité, sa généralité, au niveau du jugement, de manière totale, absolue. On ne dira jamais que ce verset ou ce hadith ne concerne que l'individu en particulier, personne d'autre, là. Mais si ce verset ou ce hadith concerne une situation spécifique, un descriptif particulier, dans ce cas-là, na'am, la généralité sera particularisée et deviendra particulière. Pourquoi? Parce que la réalité de la situation elle-même, elle est généralisée. C'est une situation qui peut exister chez d'autres personnes de la communauté. Voyez? Donc lorsqu'on dit que ne fait pas partie de l'obéissance que de jeûner en voyage pour celui pour qui le jeûne est pénible, est-ce que cette parole-là, elle est générale ou particulière? Elle est générale. Elle est générale mais elle est spécifique à une situation particulière. Vous voyez? Donc la parole, elle, elle est générale, mais elle est spécifique à une situation, elle, qui est particulière et qui est la situation de celui pour qui le jeûne il est pénible en voyage. فانتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة إذ قد يقول قائل أنتم قاعدتم قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ وهذا اللفظ عام ليس من البر الصيام في السفر مطلقا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال معينة وهي حال من شق عليه الصوم. طيب. Donc faites attention, dit le cheikh, à cette question, à ce point, parce qu'elle est très importante. Parce qu'il se peut qu'une personne te dise, hein, il y a des gens, ils ont beaucoup d'ambiguïté, voyez, beaucoup de choubouhat. Il se peut qu'elle te dise, mais vous avez émis une règle comme quoi on doit prendre en considération la généralité des mots, des termes, des phrases. Et la phrase qu'il a prononcée le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit ne fait pas partie de l'obéissance que de jeûner pendant le voyage, c'est une phrase qui est générale, alhamdoulilah. Il y a aucune particularité ici. Taïeb. Et là on répond à cette personne là que le prophète alayhi salatu wa sallam a mentionné cela en parlant d'une situation particulière. Et cette situation particulière, c'est celle de celui dont ou pour qui le jeûne est difficile. Il représente une pénibilité. Taïeb? Naam. Donc j'espère que ceci est clair. Inch'Allah ta'ala. Naam. Le problème c'est que lorsque on fait les cours à la mosquée, alhamdoulilah, les gens peuvent poser des questions, les gens pour qui justement la question n'est pas clair, on peut ainsi clarifier et expliquer, mais à la radio cela est impossible malheureusement. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on puisse retourner dans nos mosquées le plus tôt possible, inshallah ta'ala. Na'am. طيب فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.